Qu'il est bon de se retrouver, hein. Qu'il est bon de se retrouver. Je voudrais particulièrement ce matin, avant de démarrer le message, que nous puissions prendre un moment de prière pour nos frères et nos sœurs, pour notre pasteur, son épouse, pour Jean-Luc, Annette, pour les personnes qui ne sont pas accompagnées de leur conjoint, peut-être ce matin. On ne sait pas tout, Dieu sait, voilà, j'aimerais vraiment, Seigneur, te les présenter. J'aimerais vraiment te prier pour eux, et j'aimerais vraiment, Seigneur, que tu puisses les bénir. Bénis-les, Seigneur, bénis. Remplis-les, Seigneur, même si c'est difficile, remplis-les de ta joie, remplis-les dans ta paix. Et vraiment qu'ils soient entourés de ton amour. Prends-les ce matin dans tes bras de père. Fais-leur un gros câlin. Prends-les dans tes bras pour qu'ils puissent vraiment sentir l'amour du Père. Cet amour inconditionnel. Seigneur, je te prie pour toute mon église ici. Je te prie pour toutes les personnes que nous avons chacun à cœur ce matin. Vraiment, bénis-les. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ce matin, tu vas venir faire le message avec moi. Comment elle s'appelle?
Eva.
Eva. Oh, quel beau nom. Emma. Oh, I'm sorry. Il est bon de se retrouver ce matin. Et avec les cloches, on n'est pas à Pâques, je vais voir. Merci pour vos prières. Merci parce que quand nous sommes partis à Hélel, c'est vrai que c'était pas évident. Nous étions très, très, très fatigués, Michel et moi. Et vraiment, merci pour vos prières parce que ça a été vraiment un soutien. Et nous avons senti ce soutien. Et nous avons senti qu'il était vraiment important que notre Église, que vous, frères et sœurs, bien-aimés, puissent nous accompagner. Et ça, c'était dans la prière qui était posée sur nous. Voilà. Donc, le Seigneur, avant de partir, m'avait mis un thème de prédication. Et puis, pendant cette période, là-bas, à Hélel, le Seigneur a travaillé mon cœur et j'ai senti vraiment qu'il était bon que l'on puisse lui rendre gloire par rapport à ce que nous avons vécu là-bas. Et il était important que l'on puisse vous mettre au bénéfice de ce que nous avons reçu. Alors vraiment, par rapport à ce que j'ai partagé à Marie-Christine, qui devait être là, devait nous apporter certains livres, il n'est pas encore trop tard, mais j'ai vraiment à cœur de vous partager ce que nous avons vécu. Dans Matthieu 17, verset 1, il est question de Jésus, et de Jésus qui amène Pierre et Jacques, Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, et là Jésus fut transfiguré. Bien sûr, Jésus avait des invités. Il avait comme invité Élie, il avait Moïse. Et Jésus dit, l'un des apôtres dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Il était bon que nous soyons là-bas. » Il était bon que nous soyons là-bas. Et il était bon aussi que vous restiez ici. Excusez-moi, je ne veux pas vous blesser. Mais il était bon aussi que vous teniez notre église, notre assemblée, que vous soyez dans la prière pour nous. Il était bon aussi que vous soyez ici. C'était le temps kairos, c'était le temps favorable. Le Seigneur nous a mis à part. Nous nous sommes consacrés à son enseignement. Nous étions dans la prière. Nous sommes entrés dans ses plans parce que lui l'a voulu. Nous nous sommes laisser restaurer. Nous avons mis notre cœur dans les meilleures dispositions possibles. Et le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien. Mais que c'est difficile, à l'exemple des trois apôtres, mais que c'est difficile de redescendre de cette montagne. À l'exemple des apôtres, Jésus leur avait dit, vous descendrez, mais chut, ne dites rien à personne avant ma résurrection. C'est pas notre cas à nous. C'est pas notre cas à nous. Nous, on nous demande d'aller dans le monde. On nous demande d'aller proclamer et d'être des témoins. Beaucoup auraient aimé rester sur cette montagne. Hein, Monique ? Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour redescendre. Voilà. Jésus nous envoie, nous, ses enfants. Et il nous demande d'être des témoins dans le monde. Et la priorité ce matin est notre assemblée. Notre priorité ce matin, c'est vous. Vous êtes les premiers à être au bénéfice de ce que nous avons vécu. C'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et bien sûr, ça a fait écho dans le cœur de Monique, dans le cœur de Marie-Christine, qui va peut-être arriver, et de Michel. Et elles m'ont confié que c'était ce dimanche. C'était pas un autre. Nous aurions pu remettre le message au mois de septembre, mais peut-être que... Bon voilà, c'était le temps, c'était ce dimanche où il fallait apporter ce que nous avions reçu. Témoigner de la grâce de Dieu, c'est lui rendre toute la gloire. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire ce matin. Le Seigneur, notre Dieu, notre Père, ne veut pas que nous allions mieux. Il veut que nous allions bien. Il y a une nuance. Il veut que nous allions bien dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, c'est-à-dire dans notre entièreté. Et la restauration, elle est complète, elle est globale. Je ne pourrais pas vous donner les 17 jours de cours que nous avons reçus, c'est impossible. C'est impossible. Je vais vous donner des petits détails, mais je ne peux pas tout. C'est très pas possible. Dieu a un plan de sauvetage pour le monde. À votre avis, quelle est la clé centrale du plan de Dieu pour sauver le monde ? Jean 3,16. Merci. Et Dieu tient ses promesses. Il veut restaurer, guérir son peuple. Et même si vous n'êtes pas là, LL, vous, ici, il veut vous restaurer. Il veut vous guérir. Il ne veut pas que vous alliez mieux, il veut que vous alliez bien. Voilà. Mais chaque chose en son temps. Dieu ne laisse personne sur le côté. Ne nous trompons pas ce matin. Jésus est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. La restauration est en lui. Le but de ce partage ce matin n'est pas de faire l'éloge de l'œuvre d'Hélène. Non, ne nous trompons pas. Notre restauration, notre guérison, je répète, est en Christ. Mais aujourd'hui, nous devons témoigner de la gloire de Dieu par ses œuvres. Parce que Dieu veut restaurer son troupeau. Et l'une de ses œuvres est le ministère Hélène. Mais il y en a beaucoup d'autres. Nous devons rendre gloire à Dieu pour ses œuvres et non rendre gloire aux œuvres. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux vous expliquer ? D'accord ? Nous devons adorer Dieu et non les œuvres. Seul Dieu, notre Père, doit être glorifié. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour toutes ses œuvres, dont Hélène Ministry, où nous avons été au bénéfice. Amen. Nous vivons un temps particulier où Dieu souhaite restaurer l'Église de Jésus-Christ afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous pouvez trouver ça dans Éphésiens 5, au verset 27. Nous avons eu déjà l'occasion, et personnellement j'ai eu l'occasion de vous parler des Lels, notamment peut-être au mois de janvier quand je suis rentré. Voilà. Mais je ne suis pas un représentant des Lels. Je ne suis un représentant de la gloire et de la grâce de Dieu. Officiellement, je n'ai aucune casquette ce matin. D'accord ? Je ne fais aucune promotion. Je rends gloire à Dieu. Personnellement, je suis allé 5 fois en Angleterre. J'ai été au bénéfice de cette restauration. Et je peux vous dire que c'est un processus, on le reverra après. Et il y a encore du boulot chez moi. Il y a encore du travail. Mais chaque chose en son temps. Nous avons travaillé sur différents sujets pendant 5 ans, trouver, retrouver son identité, c'est-à-dire l'acceptation inconditionnelle de Dieu, être enfant de Dieu et en avoir conscience. Nous avons travaillé sur retrouver sa liberté. Nous avons travaillé sur la guérison du rejet. Nous avons retravaillé pendant 2 jours le rejet. Qu'est-ce que c'était fort ! Qu'est-ce que c'était fort ! Nous avons travaillé aussi sur reconstruire les vies. Et ça, c'était la dernière année. Et le Seigneur, durant toute cette période de 5 ans, a effectué un travail en profondeur en moi et dans beaucoup d'autres. Notre Père tient ses promesses. Et c'est biblique. Et la parole nous le confirme. Dans Philippiens 1, au verset 6, la parole nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dans chacun de vous, l'œuvre que Dieu a commencée, il la mettra à son terme. Chaque œuvre qu'il a commencée en vous, il la mènera à son terme. Qui que ce soit, tout le monde. Spirituellement, nous allons beaucoup plus loin à genoux que quand nous sommes sur nos pieds. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire ? Quand nous sommes à genoux, nous allons plus loin spirituellement que quand nous sommes sur nos pieds et quand nous marchons. Quand nous reconnaissons à genoux, genoux à terre, c'est-à-dire humblement notre faiblesse, Dieu regarde à la disposition de notre cœur. Et selon sa volonté, il utilise pour les travaux de restauration en nous, selon sa convenance, il utilise tantôt une pelle, il utilise tantôt une pioche, il peut utiliser aussi un bulldozer. Mais Dieu travaille toujours dans l'amour parce qu'il nous aime. Il nous travaille toujours dans l'amour. Alors qu'est-ce qu'Hélel ? Hélel, c'est une histoire, c'est un témoignage, c'est la réception d'une vision d'un homme. Et cet homme, ah, il y a un appel là, musicienne pour le geste Seigneur. Ce monsieur s'appelle Peter Orebin. Orebin, si tu veux, Michel. Moi, je suis français. Voilà, Orebin. Il est encore aujourd'hui fondateur et directeur international d'Hélel Ministry. Il est né en 1943 à Bolton. Tout le monde sait que Bolton est en Angleterre. D'accord ? Moi, je ne le savais pas. Il est né d'une famille chrétienne. Enfant, il s'engage pour Christ. Il a 12 ans. À 12 ans, il s'engage pour Christ. Waouh ! Il est conscient de cet appel. Il est conscient de l'appel de Dieu sur sa vie. Et à 11 ans, il décide d'être obéissant et il prend son baptême par immersion. Et il poursuit brillamment ses études. C'est un grand amateur d'automobile. Il aime, sa passion, c'est la voiture. Et il va aller dans des magasins spécialisés et puis il va s'acheter une vieille bagnole. Une vieille bagnole qu'il va restaurer. Il va commencer à la démonter, à refaire la carrosserie, voilà. Et puis, il va partager sa passion. Il va écrire des livres, il va faire des forums. Et un jour, il entend la voix de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu ? Amen. Amen. Attendez-vous à ce que ça arrive. Attendez-vous à ce que ça arrive. Un jour, il entend la voix de Dieu et lui dit : oui, toi, tu es capable de redresser un châssis de vieille voiture et ensuite de la remonter alors qu'elle est complètement en pièces. Mais moi, lui dit Dieu, je peux reconstruire des vies qui sont complètement brisées. Waouh ! Peter, qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Dieu est cohérent. Dieu est cohérent. Quelque temps après, Dieu lui parle à nouveau. Il lui dit : Peter, je veux que tu passes le reste de ta vie à amener la guérison à ceux qui sont dans le besoin et à enseigner à d'autres à en faire autant. Waouh, confirmation. De 1976 à 1986, Peter va garder ça dans son cœur. Il va se réunir avec des chrétiens et il va prier. Il va prier pourquoi ? Parce que il doit recevoir l'appel et la vision. Et cette année-là, lors d'une conférence, Peter est visité par le Saint-Esprit. Et il reçoit dans son cœur ces paroles acceptées, restaurées et prêtes pour le service. Accepter, c'est recevoir son identité, cette pleine acceptation. Restaurer, c'est être guéri. D'accord ? C'est être restauré. Et prêt pour le service, c'est l'envoi. Je t'appelle, je t'envoie. Et à l'automne, il est à la recherche d'un lieu pour mettre en place ce centre de guérison. Il a un ami qui est agent immobilier, qui vient le voir, qui dit : oh Peter, c'est bien, tu as reçu une vision, mais écoute, si tu veux, viens. Viens, je t'emmène visiter, je t'emmène voir quelque chose qui va peut-être te donner une idée, mais et puis quand bien même, rien ne nous empêche de rêver. Et ils vont visiter un château. Ils vont visiter un super château. Rien n'empêche de rêver. Et le Seigneur parle à Peter. Et le Seigneur lui dit : c'est ici. Réclame ce lieu pour moi. Réclame ce lieu pour moi. Vous imaginez ? Réclame le château, réclame ce lieu pour moi. Comment on peut faire, Seigneur ? Comment on peut faire ? À la demande du Peter, la réponse est non, parce que ce centre de thalassothérapie existant n'est pas à vendre. Peter laisse, par la foi, sa carte de visite. Il dit : Seigneur, c'est toi qui fais. Si on doit me rappeler, on me rappellera. 3 mois plus tard, quelqu'un s'informe si Peter est toujours acheteur du château. Et ce château s'appelle L.L. Grange. Mais il y a un problème. Il y a un problème, un gros problème. Le château maintenant est en vente. On propose à Peter de l'acheter. Et à votre avis, quel est le problème ? Il n'y a pas d'argent, mais absolument, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un financement miraculeux. Il faut un financement miraculeux pour entrer dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quelque chose que nous avons vécu? Le château blanc de Thumry. Est-ce que Robert Rive vous a témoigné, vous a partagé comment il est allé voir le banquier sans argent, sans en étant missionnaire, et comment auprès du banquier il a obtenu le prêt parce que Dieu avait dit à Robert, c'est là. Ici aussi, Dieu, on n'avait pas d'argent. Alors, on peut vraiment rendre gloire à Dieu. Mais quelles conclusions pouvons-nous avoir? Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? C'est que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Quand Dieu donne la vision, il donne toujours la provision. Provision. Merci Jacques. L'argent arrive miraculeusement. Il y a des dons qui sont donnés, il y a des crédits. Et le 31 août 1986, ils font l'acquisition du château. Et c'est pas n'importe quelle date. C'est la veille de la grande fête d'Halloween dans la région. Vous voyez la marque du Seigneur. Le château est donc consacré à l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le château? On n'en sait rien. Et ces gens, Peter, qui est le leader, reçoit par le Saint-Esprit le fait qu'il faille nettoyer ce château. Ils sont convaincus par le Saint-Esprit qu'il faut vraiment procéder à la purification spirituelle des lieux. Ça a été fait. Et c'est ainsi qu'Hélène Ministry voit le jour. Et la première retraite de guérison aura lieu en janvier 1987. Et le besoin de guérison, de restauration est devenu de plus en plus important. Il y a eu ensuite le manoir de Glensley en Angleterre. Il y a eu aussi le Canada, Londres. Bientôt, il y aura Israël. Il y a 16 centres de guérison et de délivrance dans 5 continents au monde aujourd'hui. Vous vous rendez compte de l'œuvre de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que Hélène Ministry? C'est une organisation missionnaire chrétienne qui est non conventionnelle, dont la vision est d'équiper l'Église en accueillant des personnes, leur enseignant les principes du royaume de Dieu et guérissant ceux qui sont dans le besoin, selon l'évangile de Luc 9 au verset 11. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu et guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et la mission d'Hélène, elle consiste à mettre en œuvre la vision reçue de Peter, vous voyez, à travers le monde, là où Dieu ouvre des portes en accordant avec la grande mission du Seigneur et l'appel de l'Église à proclamer le royaume de Dieu, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les cœurs brisés et libérant les captifs. Et ce qu'ils ont reçu notamment, et ce que je vais vous lire et ce verset que j'ai et qui me court après depuis, ça va faire au moins 2 ans, c'est, vous connaissez, c'est dans Luc 61, c'est « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi ». Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est Luc 4 ou Ésaïe 61, excusez-moi, autant pour moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes, des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Jésus est oint pour guérir. Jésus est oint encore pour nous restaurer aujourd'hui. La restauration, la guérison est en Jésus. Alors que veut dire l'aile? E, deux L, E, L. On pourrait dire c'est deux fois Dieu, parce que elle est Dieu. Vous avez compris que l'aile a pris le nom du château et l'aile grange. Ce mot veut dire aussi Hal Hei, en vieil anglais, qui signifie acclamer tous, ou Dieu des dieux en hébreu, amour qui coule à travers en chinois. On pourrait dire que Hallel signifie acclamons tout Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, et cela peut s'exprimer en répandant l'amour de Dieu dans un monde déchu et injuste. Notre vie là-bas, comment nous avons vécu ces 15 jours? Nous sommes arrivés là-bas, il faisait 36 degrés. Nous chassions les zones d'ombre sur les autoroutes. Nous sommes arrivés, il faisait chaud. Bon, nous étions au deuxième étage, en haut. Nous avons ouvert les fenêtres, nous avons mis le ventilateur. La nuit, on se réveillait, on aurait cru sortir de la douche. La chaleur était insupportable. Donc nous sommes arrivés fatigués. Le fait qu'on dormait mal, on était encore plus fatigués. Mais le Seigneur a pourvu. Notre Père, nous avons été accueillis comme les enfants du roi. Vraiment extraordinaire. Notre Père a mis son huile de paix et bienfaisante dans les rouages de nos relations. Nous étions 31 étudiants. Nous étions quelques-uns à la fraternité, comme nous. Monique était au refuge. Il y avait des campeurs. Nous avions 10 encadrants. Beaucoup étaient pasteurs. Il y avait 35 équipiers de prière. Et il y avait une vingtaine de petites mains, c'est-à-dire les gens qui s'occupaient de la cuisine. Nous avons été reçus vraiment comme les enfants du roi. Et ils ont toutes fait le maximum pour que notre séjour soit agréable, malgré la chaleur. Nous avons fait des rencontres exceptionnelles. Nous avons rencontré des gens, le Seigneur nous a mis des gens devant nous à table, et franchement, il y a eu des cœur à cœur, il y a des personnes qui sont gravées à jamais dans notre mémoire. Nous avons vécu, chaque jour, nous avions 6 heures de cours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, les portes étaient ouvertes. Il y avait des ventilateurs qui étaient... Oh là 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 là. Mais nous avons vécu 6 heures de cours par jour, matin et après-midi. C'était chaud. Nous avons vécu la créativité. Je vous expliquerai ensuite ce que c'est. Nous avons vécu aussi des ateliers de groupe. Ensuite, nous avions un temps libre, pas assez à mon goût, qui était le dimanche après-midi. Pour moi, c'était pas assez. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous avons vécu pendant les cours 9 thèmes. 9 thèmes qui comprennent le module A. Et le module B, nous allons le vivre dans 2 ans, si Dieu le veut. Le premier thème, ce sont les fondements du ministère de guérison. Les fondements. Ce sont les bases scripturaires, c'est-à-dire qui ont rapport à l'Écriture sainte, c'est-à-dire la Bible, pour vivre une vie chrétienne personnelle et pour le ministère spécifique de guérison. C'est le fondement de la foi. C'est la nature de l'homme et le besoin de guérison qu'il est en lui. C'est la loi et la grâce. Pourquoi la loi est toujours présente? Et pourquoi la grâce de Jésus est présente? Deuxième thème, nous avons vu marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Mais oui, parce que sans le Saint-Esprit, que faisons-nous ? Hein ? On ne fait pas grand-chose. Comment être guidé et recevoir la puissance du Saint-Esprit en exerçant le ministère dans l'amour de Dieu ? Le baptême dans l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, voilà, recevoir l'Esprit. Numéro 3, acceptation et appartenance. Comprendre les racines du rejet. Oh. J'ai prêché une fois sur le rejet. Si le Seigneur me met à cœur de vous repartager cette prédication, je le ferai vraiment avec beaucoup de joie. Les racines du rejet et trouver les clés de l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Ce sont les fondements de l'acceptation. Pourquoi nous sommes inconditionnellement acceptés par Dieu? C'est la clé. C'est la clé. C'est très important. Dans la réalité de nos vies, les quatre principes du pardon, je vais vous en parler après. Il faut se préparer au changement. Et pourquoi est-il si difficile de recevoir l'amour de Dieu ? Numéro 4, guérison intérieure et plénitude émotionnelle. Pourquoi aujourd'hui nous fonctionnons avec nos émotions qui font partie de notre âme ? Diagnostiquer et exercer le ministère dans les racines qui ont causé les blessures, les douleurs émotionnelles. Pourquoi notre âme est abîmée ? Pourquoi notre âme est blessée ? Pourquoi notre esprit a été écrasé ? Pourquoi aujourd'hui nous fonctionnons avec notre âme et pourquoi aujourd'hui dans l'esprit nous avons du mal à entendre Dieu parce que notre esprit est écrasé? Comment revenir? Comment recevoir cette guérison dans l'esprit? Ça fait écho, Monique et Michel. Hein? Les fondements bibliques de l'enseignement théorique et pratique du ministère de délivrance. Nous avons parlé de l'iniquité générationnelle. Je vais vous expliquer après. Numéro 6, j'avance. Les guérisons de l'esprit humain, la restauration de l'esprit humain, comprendre le fonctionnement de notre esprit humain et pourquoi il peut avoir besoin de guérison. Nous avons parlé de l'esprit humain, comment notre âme est en relation avec notre esprit humain et guérir l'esprit humain. 7, il y en a que 9, hein, il y en a encore 3. La vérité au sujet du sexe et de la sexualité. Quelle est, alors ça, c'était très important par rapport à aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se positionnent avec le mariage, hein, avec la bénédiction des couples homosexuels. Et nous avons vu vraiment la réalité, l'ordre que Dieu donne dans la vérité qui est la Bible par rapport à l'homme et la femme et par rapport au mariage. C'est pas un coup dans le zig, c'est pas un coup dans le zaï. Dieu est clair et précis par rapport au mariage et par rapport aux relations sexuelles que l'homme et la femme doivent avoir. Les principes et la pratique de la sexualité selon le plan de Dieu. Comprendre les relations sexuelles, le péché sexuel et ses conséquences. Nous avons parlé aussi de l'avortement, nous avons parlé des fausses couches, nous avons parlé de la purification. Après le péché sexuel, nous avons parlé de l'homosexualité, du lesbianisme et du plan de Dieu pour les célibataires. Oui, parce que pour les célibataires, Dieu a aussi un plan. Il ne laisse personne de côté. Les étapes pour être libéré de la peur. Quelle est la bonne peur? Quelle est la mauvaise peur? Dieu nous donne la peur. Mais oui, si vous êtes près d'une falaise, mais oui, vous allez avoir peur. Mais c'est une peur qui est normale. C'est une peur qui est donnée par Dieu. Mais si vous avez constamment peur des falaises et que vous ne voulez pas aller à 100 mètres, alors là, c'est une peur qui vous rend prisonnier. Elle vous attache. Et ça, c'est une peur qui est inique. Nous avons parlé des phobies, des gens qui ont peur des araignées, des gens qui ont peur de l'eau, des gens qui ont peur de toutes choses. Et Dieu veut nous libérer de tout ça. Parce que c'est une emprise du malin qui est sur nous et qui nous emprisonne et qui nous rend prisonniers de ses peurs. Dieu veut que nous soyons libres par rapport à ça. Neuvièmement, et c'est terminé, être guéri d'un accident ou d'un traumatisme. Nous avons vu comprendre les impacts d'un accident ou d'un traumatisme et expérimenter la guérison divine dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Nous avons vu qu'un accident corporel peut impacter notre âme et peut impacter notre esprit. On voit aussi qu'un abus spirituel qui est dans notre esprit peut impacter notre âme. Et nous avons aussi, nous pouvons avoir un problème psycho, comment on dit ça, aidez-moi, quand l'esprit se dépose sur le corps. Psychosomatique, merci, j'avais oublié le mot. Nous pouvons avoir des problèmes. Il y a des gens qui sont tordus, il y a des gens qui sont pliés en deux. Et c'est bien souvent spirituel. Ces gens ont été traumatisés. Et Dieu veut libérer de ces traumatismes. Dieu veut libérer. Nous avons travaillé les ateliers de groupe. Les ateliers de groupe, c'était après les enseignements. C'est complémentaire aux enseignements. Des temps de ministère et de pratique chaque jour. Je dis bien des temps, c'était des temps complémentaires aux enseignements, des temps de ministère pratique. Mais je vous rassure, on n'a pas mis en pratique le cours sur la sexualité. Ça fait rire, Monique. Nous avons signé un certificat de confidentialité et nous avons, pendant ces groupes de travail, vraiment, on nous a donné les premiers éléments pour pouvoir prier et pour pouvoir libérer au nom de Jésus. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Nous avons fait aussi des ateliers de créativité. Dieu est créateur. Nous sommes sa création. Et de ce fait, tu es bien placé pour le savoir, tu en fais. Nous sommes créatifs. D'accord ? Et dans les différents ateliers, Dieu nous parle. On pourrait comparer ça à des psychodrames. Il y a des choses qui sont enfouies à l'intérieur de nous, bien profondément, qu'on a mis au-dessus des piles et des piles et des piles et des piles. Et puis dans un dessin, dans une création, il y a des choses qui ressortent. Il y a des choses qu'on peut dessiner. Il y a des choses que Dieu met à la lumière. Et là, dans les temps de ministère, nous pouvons prier et Dieu nous libère. Amen. Nous avons fait du théâtre. On a rigolé, mais faut voir comment on a ri dans ces moments de théâtre. Hein, on pourra faire quelque chose de temps en temps ensemble, vous allez voir, c'est super simple et c'est hyper marrant. Nous avons fait de la peinture au couteau, rassurez-vous, on ne les a pas lancés. On a fait de la peinture au couteau, on a chanté avec une petite dame âgée, avec tous des chants. Quelle joie, quelle joie! Et certains, par rapport à ce qu'ils avaient dans leur cœur, ont pu écrire une lettre à leur père. Une lettre à leur père. Je vous conseille, il ne faut pas aller à Hillel pour le faire. Vous pouvez à la maison, un moment, dans votre jardin, là, parmi la nature, écrire une belle lettre à votre père. Vous pouvez épancher votre cœur. Nous avons eu 3 temps de ministère d'1h15. 3 temps de ministère avec seul face à un équipier de prière et un coéquipier. Et là, nous avons reçu la prière 3 fois 1h30. Nous avons été libérés, nous avons été restaurés, nous avons pu vraiment confesser nos péchés, nous avons pu couper les liens d'âme, nous avons pu être restaurés. Il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu des signes, tout pour la gloire de Dieu. La clé maintenant, la clé pour la restauration, c'est le pardon. Le pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous avez des menottes, vous êtes enchaîné. Le pardon est inconditionnel. Si vous ne pardonnez pas, vous donnez à l'ennemi des droits sur votre vie. Vous donnez à l'ennemi des droits sur votre vie. Le pardon est indispensable. Confessez nos péchés, demandez pardon à Dieu, renoncez à nos péchés, coupez les liens d'âme personnels et les liens iniques générationnels, proclamez la délivrance. Nous avons vu pendant ces 15 jours l'œuvre du Seigneur. Dans son amour, il veut que nous soyons tous restaurés, même vous qui n'êtes pas allés à Hillel. il fera toutes choses bonnes en son temps. Durant ce temps, nous avons vu des visages changer. Quand vous arrivez dans un groupe comme ça de restauration, moi je me méfie toujours. J'essaie toujours de prendre la bonne distance avec chaque personne. Parce que les personnes qui viennent là, ils doivent être restaurés, ne le sont pas encore. Alors attention, attention. Moi je discerne sur les visages, je dis, oh là Pascal, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Cet homme, il est fragile, essaye de ne pas le blesser. C'est très, 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 très important. Les visages étaient graves, on voyait le malaise. Au fur et à mesure des cours qui étaient donnés, il y avait la révélation du péché, la révélation de la souffrance. Les visages se durcissaient, les visages se tiraient. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, au fur et à mesure que Dieu mettait sa lumière, au fur et à mesure que la restauration s'installait, les visages s'éclairaient. Les masques tombaient. C'était extraordinaire ce que nous avons vécu. La lumière bienfaisante de Jésus-Christ venait éclairer les visages. C'est cette lumière, cette petite lumière, unique, parce que vous êtes unique, que Dieu, lors de votre naissance, a plantée en vous. Les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. C'est dans les Lamentations 3 au verset 22. Je sais que je suis encore en travaux. Je sais que je suis en travaux. Je sais que la sanctification est un chemin. Je sais que je suis sur ce chemin. Et je sais que la restauration est un processus. Je sais que Dieu veut restaurer les vies de chacun et de chacune d'entre nous. Tous ses enfants, sans exception. Je sais, j'ai fait de ma vie des mauvais choix. Je sais, ça c'est personnel ce que je vous dis. Mais je sais que Dieu m'aime autant. Il m'aime, Dieu m'aime tel que je suis. Même si dans ma vie j'ai fait des mauvais choix. Et son amour, je sais qu'il est inconditionnel. Je sais que je suis accepté inconditionnellement. Et je sais aujourd'hui que demain, si je me trompe, parce que demain, j'aurai le droit de me tromper. Même si je prêche devant vous, je sais que j'ai le droit de me tromper. Son Saint-Esprit rattrapera toujours les choses. Dieu pardonne. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je pardonne toujours. J'accepte aujourd'hui d'être dans un temps de processus, de remise en ordre, par rapport à la volonté du Dieu. Ma sécurité aujourd'hui, c'est la couverture de Jésus dans son sang. Lui, c'est ma propre sécurité. La sainteté n'est pas, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. La sainteté n'est pas l'absence de péché. Non. Parfait. La sainteté n'est pas l'absence de péché, mais l'absence de choses cachées. Parce que toutes choses doivent être mise à la lumière de Dieu pour que Dieu restaure, pardonne, parce qu'il est miséricordieux, tout mis à la lumière. Nous devons être transparents avec lui afin que sa grâce coule en nous sur nous et nous restaure. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Je vous donne les clés aujourd'hui de la restauration. Et le Seigneur, proclamez la Seigneurie de Jésus dans nos vies. Et sa Seigneurie. Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es de ma vie. Je proclame ta seigneurie sur l'entièreté de ce que je suis, sur mes pensées, sexualité, sur l'entièreté de ma vie. Je proclame ta seigneurie. Pardonnez aux personnes qui nous ont blessés. Pardonnez aux personnes qui nous ont blessés. Pardonnez ne revient pas. J'accepte ce que tu m'as fait. Cela, c'est plutôt, je ne suis plus disposé à porter une souffrance en réaction. Après tout, si nous gardons la rancune au cœur, nous ne faisons que nous punir nous-mêmes, parce que nous sommes donnés dans ce péché. Donner, c'est la base pour briser les amertumes. C'est choisir de ne plus être intime. Pardonner, c'est choisir d'être comme Dieu, encore Dieu. Il y a quatre principes du pardon. Le pardon de nos propres péchés. Il faut payer aux autres. Et surtout, chose qu'on ne fait pas jamais, il faut se pardonner à soi-même. À Dieu, il n'y a pas besoin de pardonner à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon et miséricordieux. Se pardonner, couper les liens d'âme. Il y a des liens d'âme qui sont très bons. Jacques, Christine, liens d'âme entre vous. Vous êtes mariés, femmes. Ils sont liens d'âme que nous avons eus dans nos vies. Et relations qui n'ont pas été dans l'ordre que a voulu. Il faut couper ces liens d'âme. Il y a d'âme inique et générale. Les péchés des parents, des grands, la malédiction de la troisième génération, ça, il faut couper ces liens iniques. La délivrance des esprits impurs, ça, c'est votre pasteur qui peut vous lier à ça. Voilà. Nous sommes tous en travaux. Nous sommes tous sur un bon chemin. Vous, le Seigneur m'avait mis à cœur de partager. Amen. Maintenant, Monique, Michel, normalement Christine, Marie-Christine, là, si vous voulez bien venir, rendez à Dieu. La balle est dans votre camp. À Dieu la gloire.
Ah oui, moi je veux attester que le Seigneur est bon et miséricordieux. Je suis partie là-bas. Vous connaissez le chant « Je changerai ton nom ». On ne t'appellera plus blessé, rejeté, seul ou effrayé. Je changerai ton nom. Ton nouveau nom sera confiante, pleine de joie, victorieuse, fidèle amie de Dieu qui cherche ma face. Je suis partie là-bas, j'étais comme ça, blessée, rejetée, seule, etc. Et je suis revenue transformée. Voilà. Voilà. J'ai retrouvé mon identité de fille de Dieu. Voilà. Alors, aller à Hélel, c'était obéir au Seigneur parce qu'il avait son plan. Et j'ai téléphoné à Hélel, c'était la dernière chambre, enfin, c'était le dernier lit. Voilà, amen, gloire à Dieu. Dans son plan, il est merveilleux. Je ne redirai pas tout ce que notre frère a partagé. Ce que je voudrais seulement dire, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans la vie, nous avons des choix à faire, des choix difficiles, des choix douloureux. Mais n'oublions pas d'avoir notre regard centré sur Jésus. N'oublions pas de... Excusez-moi. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, nous sommes sous l'autorité de Jésus. Et c'est nous qui nous soumettons, qui voulons garder cette autorité sous Jésus. Lorsqu'on se trompe, on se trompe d'autorité. Alors, à chaque fois, le Seigneur est bon et il nous rappelle, reviens sous mon autorité. C'est ça le Saint-Esprit. Aller à Hélel, c'est voilà, j'ai passé l'hiver et puis quand la lumière rentre par les carreaux, vous voyez tous les défauts. Et pour moi, c'était ça. J'ai passé l'hiver et puis à la lumière, il y a Jésus qui s'approchait un petit peu. Et au fur et à mesure des enseignements, il y a la lumière qui s'approchait. Oh, il y a une toile d'araignée là. Et puis donc, je confessais, je demandais pardon. Et le lendemain, on avait un nouvel enseignement. Oh, et la lumière s'approchait. Oh, et puis il y a ça aussi. Donc c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais le Seigneur est merveilleux. Et je vous souhaite vraiment de vous remettre à lui. Parce que c'est tellement merveilleux de voir tous les changements qu'on a pu connaître soi-même et puis vis-à-vis des autres. Cette fraternité, cette unité, cet amour, c'était vraiment sensationnel. Alors, merci pour votre soutien dans la prière. Et je vous encourage vraiment à vivre cette communion qu'on a pu partager à Hélel. Merci.
Tu fais partie de Diesel, comme
ouais,
vous êtes.
Ouais, c'est ça.
Ah bah écoute.
écoutez, on a passé un moment formidable. Ça a été compliqué parce que il faisait très très chaud. Alors déjà, on a subi la chaleur sur la route, donc on est arrivé, on était fatigué en partant, on était encore plus fatigué en arrivant. Et le fait qu'il fasse chaud comme ça et qu'on soit dans les combles, ben, puis c'était une fenêtre, ouais, elle n'était pas plus grande que le pupitre, alors il n'y avait pas beaucoup d'air, hein, c'était vraiment terrible. Alors moi, je ne dormais pas à cause de la chaleur, et c'est le lendemain, ben, c'est vrai qu'avec d'autres personnes qui subissaient la même chose que nous, qui ne supportaient pas, ben, on avait des pannes de paupières, c'était difficile de tenir notre attention. Mais bon, on a quand même reçu les enseignements. Après, c'est tellement dense et fort que on n'a pas forcément tout, on ne s'est pas forcément approprié tout. Mais heureusement, on a des CD et on va pouvoir revenir en arrière et réécouter ces choses et retravailler dessus. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les guérisons, bah, y a encore des choses à guérir. Ça restera toujours comme ça. Ouais. Il faut qu'on se fasse à l'idée que toute notre vie, ce sera comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup de choses. Il y avait un jeune homme qui était là. Hein, c'est vrai que le premier jour où je l'ai vu, j'ai dit, il y a un visage, ce garçon, mais tourmenté, mais noir, vraiment noir. Et au fur et à mesure, on a vu son visage changer, il s'est éclairci, c'était extraordinaire. Et nous-mêmes, on a vécu des choses. Moi, j'ai vécu notamment une délivrance. Depuis ma plus tendre enfance, je fais des cauchemars. Depuis toute petite, je fais des cauchemars. Et pour quelle raison ? Ça, je ne saurais pas dire. J'ai en mémoire ces cauchemars vraiment clairement. Je les ai eus toute petite et je me réveillais en hurlant la nuit. Et c'était vraiment fatigant. Et pour mes parents aussi, ce qui fait qu'on a entrepris de me soigner. Donc on est allé chez le médecin et on est allé voir un spécialiste à Lille. Et c'était mon père qui m'a emmené à Lille voir ce médecin. Et ce médecin a dit que, ben, en fait, mes dessins traduisaient mon mal-être et que j'étais pas bien, j'avais peur de quelqu'un, j'avais peur, j'étais traumatisée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était mon père. Et c'est lui qui m'a emmené voir le médecin. Ça, c'était incroyable. Mais mon père, quand on était à Lille, c'était un homme différent. Différent, c'était pas du tout celui qui me criait dessus à longueur de temps, il était différent, il m'avait même emmené ça m'avait marqué, j'y ai toujours repensé, dans un grand magasin à Lille, et il me disait, tu vas voir, je vais te montrer un oiseau qui parle. Alors, et il y avait effectivement un ménate, et ce ménate, il ne disait jamais rien, sauf quand je me retournais, il me disait au revoir Coco, et ça c'est resté dans ma tête, et j'y suis allée pendant quelques temps voir ce médecin. Bon, ça n'a pas résolu le problème parce que forcément mon père continuait à être ce qu'il était, et puis au fur et à mesure que les années le passaient, mes cauchemars s'en sont transformés après. Au départ, c'était des cauchemars de mort, c'est-à-dire que je rêvais toutes les nuits que tous les gens de ma famille étaient morts et qu'ils étaient enterrés au plafond, et qu'à chaque fois que j'allais dormir, eh ben, ils me parlaient, alors forcément je ne pouvais pas dormir, donc je me réveillais en hurlant, et ça a duré pendant plusieurs années. Et puis après, quand j'étais plus adolescente, adulte, les cauchemars se sont transformés. En fait, toutes les nuits, il y a quelque chose ou quelqu'un qui me poursuivait. Je voyais pas ce que c'était. Je me retournais, je voyais quelque chose de noir, et j'en avais tellement peur que je courais. Et au fur et à mesure que les années passaient, c'était beaucoup plus intense. Et ce qui fait qu'à certains moments même, je courais dans les airs. Je courais à aller au-dessus des maisons, des immeubles. Et cette chose, elle me courait. Et Pascal, il peut en témoigner. Ça durait encore pendant quelques années. Je pleurais. Je sanglotais, puis il sentait la tension et la peur qui me prenait, et je me réveillais en pleurant, en n'étant pas bien. Donc, toutes ces années, depuis ma petite enfance, j'étais fatiguée. Pascal, il me disait, mais pourquoi t'es fatiguée comme ça? Mais c'est ça, en fait. Je ne dormais jamais tranquillement. Et il y a quelques années, ben, on était allé à LL et j'avais parlé de ça. Et pendant quelques temps, j'ai prié, et puis les cauchemars ont cessé. Et je dormais bien, je dormais paisiblement. Et puis là, la deuxième semaine, la chaleur a cessé, on dormait mieux, et mes cauchemars, ils sont revenus. mais sous une autre forme. Là, au lieu de m'enfuir, eh ben, la chose qui me poursuivait, j'y faisais face et je combattais. Mais je combattais tellement que le matin, je me réveillais, j'avais pas dormi et j'étais épuisée. Et du coup, j'en ai parlé. Parce que j'y pensais plus à ça, comme il y a quelques années, j'avais été délivrée, je pensais que c'était terminé. Et en fait, j'en ai parlé au mandat ministère, et ils ont prié pour moi. Et on a cherché à savoir ce que ça pouvait être. Et le mal que mon père m'avait fait, la terreur qui me tétanisait quand il arrivait, ben j'allais me cacher. Ou s'il y avait eu quelque chose, un problème dans la journée, ben je faisais pipi à ma culotte tellement j'en avais peur. Donc, on a fait le processus, c'est-à-dire que j'ai pardonné à mon père, j'ai coupé les liens avec les gens du ministère, et c'était terminé. Là, après, j'ai pu dormir les 5 derniers jours sans cauchemar, sans problème. J'étais délivrée. Je peux dire que là, j'ai reçu la délivrance parce que, alors qu'on rentrait, Pascal, il m'a appris des mauvaises nouvelles et ça aurait pu revenir par ce biais-là. Et non, je dors mal parce qu'il fait chaud, mais je dors, mais je ne fais plus de cauchemar ni de rêve. Pour l'instant, je suis tranquille avec ça. Et je pense que j'ai été délivrée et que le fait, en fait, quand on n'a pas conscience de la racine du mal, et le fait que j'ai mis un nom là-dessus, je me suis dit, ben, mon père, il me terrorisait tellement que c'est ça, en fait. Mais j'avais pardonné à mon père, moi, dans le fond de mon cœur, quand j'étais ado, j'ai repris des relations avec lui, et ça allait mieux. Mais il fallait que ce soit fait devant le Seigneur, et qu'on en parle à voix haute, que je me confie à quelqu'un, et qui est cette prière de délivrance, et ces pardons qui soient donnés, en fait, vraiment devant témoin et devant Dieu. Pour que ce soit vraiment efficace et fermé définitif. Voilà. Alors, je tenais à vous partager ça parce que là-bas, je l'ai fait et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir après en me disant que mon témoignage était extraordinaire, que c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Le fait de vivre ça toute sa vie, c'est lourd, hein. C'était très difficile, très, très difficile. Et maintenant, je suis tranquille avec ça. Voilà. Dieu soit loué. Amen.
Alors je voudrais faire une petite... Michel a coupé les liens d'âme, non pas avec les personnes d'Hélel, mais avec son père. Voilà. Moi, avec son père, les liens d'âme générationnels ont été coupés. Et Michel a pris la liberté. Voilà, elle a été libérée. Ce que je voudrais aussi dire par rapport à Michel, c'est que c'est la première fois qu'elle se lève. Devant toute une assemblée, nous étions peut-être 70 personnes dans la salle, avec toutes les personnes qui étaient là, et Michel s'est levé et elle a rendu gloire à Dieu dans le témoignage qu'elle a donné. Son témoignage a tellement été poignant qu'on est venu la chercher avec d'autres pour la filmer et pour qu'elle soit dans le film pour Hélel Ministry. Voilà. Et ça, moi, franchement, je suis fier de toi et je vais te le dire devant tout le monde. C'était vraiment super. Voilà. J'avais demandé l'autorisation à Robert de pouvoir vous présenter, vous proposer quelques livres. C'est Marie-Christine, là-bas, qui a pris les livres dans sa voiture. Elle devait être là ce matin, elle n'y est pas. Elle devait aussi vous apporter son propre témoignage. Marie-Christine n'est pas là, peut-être la semaine prochaine. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire. Nous voulons vraiment te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es notre Libérateur, Seigneur. Merci, merci pour tout ce que tu as accompli dans les vies de chacun durant cette période Hélel. Merci pour ce que tu vas accomplir aussi dans les vies de chacun, même pour ceux qui ne vont pas Hélel. Parce que tu as un plan d'amour, de restauration pour tous tes enfants. Oui, Seigneur, pour tous tes enfants. Et il ne faut pas aller à Hélel pour être restauré. Tu peux restaurer les cœurs ici à Lille, ici à Wavrin. Et je te bénis pour ça. Je te remercie parce que tu es un Dieu de bonté. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te rends toute la gloire. Amen.